Alors, je suis Olivier Gabé, je suis directeur du département des objets d'art au musée du Louvre et je suis co-commissaire à l'exposition S'habiller en artiste.
Donc cette exposition-là, elle met bien sûr en valeur les artistes, aussi les personnes qui ont gravité dans le monde de la mode en général, et les connexions sont souvent faites dans cette exposition.
Alors l'idée, c'était de montrer comment peuvent se rencontrer quelquefois la mode et le vêtement d'un côté, et l'art et les artistes de l'autre. D'une part parce que les artistes sont un sujet de représentation, soit par le fait de l'autoportrait, soit en se étant représentés par d'autres artistes, et que souvent un élément caractéristique et distinctif peut être celui du vêtement et donc de la mode, et que historiquement, depuis des temps assez reculés jusqu'au 20e et au 21e siècle, on peut reconnaître un artiste par son apparence, Andy Warhol par sa perruque, Nikita Saint-Phalle par son extravagance, ça c'est une chose, et de l'autre côté, de montrer que le vêtement par ailleurs devient aussi au fil des siècles une expression artistique en tant que telle. C'est le cas notamment au moment de l'avènement de la haute couture, où le vêtement devient potentiellement un objet unique qui va être signé comme une œuvre d'art, d'une certaine manière. Et c'est une revendication de cette période qui est reprise ensuite par un certain nombre de créateurs. Et on met en exergue dans cette exposition une figure comme Yves Saint Laurent, mais aussi comme John Galliano pour la Maison Dior, qui montre combien ces créateurs de mode ont aussi cet appétit pour l'art et sont capables d'utiliser l'art pour l'exprimer d'une manière ou d'une autre, et comment aussi, chez beaucoup d'artistes depuis le tournant du 19e et du 20e siècle, le vêtement est devenu la matière d'une création en tant que telle, et peuvent s'en saisir pour en faire des œuvres d'art en tant que telles, sans qu'elles soient nécessairement des vêtements à porter, mais vraiment comme une sorte de manifeste artistique et esthétique.
Alors il y a ce vêtement en tant peut-être singularité de la personne qui veut se montrer d'une certaine manière, qui veut suivre ou non des tendances. Et puis il y a ce vêtement qu'on retrouve à un moment donné qui est une sorte de dress code pour des gens qui apparaissent dans une certaine société.
Alors ça, c'était aussi un point important. Alors évidemment, l'exposition ne pose pas les choses dans l'absolu. Elle montre au contraire comment le vêtement est aussi une manière de s'exprimer pour les artistes dans un cadre sociologique. Le vêtement fait partie aussi petit à petit du statut de l'artiste. Le fait de se représenter de telle ou telle manière est souvent une manière de s'afficher et de dire des choses pour l'artiste sur où il se situe sur le panorama social, dans la société même. Et c'est vrai que c'est frappant de voir combien au XIXe siècle, loin quelquefois de l'idée de la bohème, l'artiste aime à adopter ou se représenter dans une forme d'apparence bourgeoise qui le place un peu autrement aussi dans l'espace social. Donc ça, c'était aussi un point très important, c'est-à-dire de montrer que tout fait sens dans une œuvre d'art et que le vêtement a aussi un sens qui est souvent décisif dans la manière d'approcher et d'interpréter l'œuvre d'art.
Parmi ces artistes, il y a des artistes femmes. Elles sont peu nombreuses dans les siècles derniers à être présentées, même si maintenant on commence. Notamment, je pense à une très belle salle consacrée à Nikita Saint-Phalle.
Alors, Nikita Saint-Phalle, c'est une artiste très singulière, évidemment, parce que c'est une artiste majeure qui, par ailleurs, a très vite eu un intérêt pour le vêtement. D'abord parce qu'elle a conscience que son message, et elle est très jeune, a commenté son travail, qui semble quelquefois un peu étonnant aussi pour la critique et pour l'opinion publique. Donc elle est souvent amenée à le commenter. Elle se rend compte que son apparence vestimentaire, son apparence physique font partie aussi d'une stratégie de communication pour parler de son œuvre, d'une part. Et d'autre part, elle va aussi, dans ce droit fil, être à la fois une muse. Yves Saint Laurent va dire assez vite que l'allure de Nikita Saint-Phalle l'avait beaucoup inspirée dans certaines silhouettes de collections importantes des années 60 et 70, notamment ces combinaisons qu'il voit sur elle comme un vêtement de travail qui lui inspire des vêtements de soit de haute couture, soit de prêt-à-porter. Et d'autre part, elle-même va avoir une amitié très singulière, très forte avec Marc Bohan, qui est l'homme qui va succéder à Yves Saint Laurent à la tête de la maison Christian Dior en 1962. et avec laquelle va se développer une amitié très, très forte, puisque Niki de Saint-Phalle va lui commander un certain nombre de vêtements, où il va réaliser pour elle un certain nombre de vêtements. Et d'autre part, Margouan va être aussi un très grand collectionneur de l'œuvre de Niki de Saint-Phalle. Et il crée pour elle des vêtements qui sont vraiment des vêtements uniques, qui sont des vêtements à elle, qui souvent d'ailleurs s'inspirent de ses propres créations à elle, qui sont repris sur ses vêtements, et qui leur donnent un statut tout à fait particulier, qui sont à la fois... objet personnel et en même temps presque objet de vêtements de performance, puisque quand elle les porte, Niki de Saint-Phalle sait qu'elle est la seule à les porter et que de cette manière elle travaille son image à travers ses vêtements.
Parmi les œuvres qui sont présentées ici dans cette exposition, est-ce qu'il y a des œuvres plus marquantes que d'autres qui sont peut-être moins connues aussi? Alors on pourrait peut-être parler bien sûr d'une personne qui vient d'Afghanistan,
oui.
Mais au-delà de ça.
L'exposition, elle mêle à la fois des chefs-d'œuvre absolus. On présente deux des autoportraits de Rembrandt, qui sont quand même des œuvres absolument fondamentales dans l'histoire de l'art. On présente le très fameux atelier aux Batignolles de Fantin-Latour, qui représente cette pléiade d'artistes modernes autour de la figure de Manet. Donc, on est auprès de, on a quand même des œuvres très très importantes qui sont finalement présentes pour être lues, analyser et regarder d'une manière un petit peu différente dans l'espace de l'exposition temporaire. Et puis quelquefois, il y a des œuvres plus étonnantes. Les vêtements, me semble-t-il, sont des éléments assez étonnants. Puis quelquefois, nous sommes sur des œuvres d'artistes qui sont moins connus, qui sont aussi peut-être plus prospectifs. Des artistes aussi qui sont quelquefois inclassables dans ce rapport justement entre l'art et le vêtement. Je pense à quelqu'un comme Marcel Bascoulard, qui est un artiste berrichon, qui va passer d'une pratique de l'art brut à une forme de performance. C'est quelqu'un qui très souvent se fait photographier habillé de vêtements de femmes qu'il a lui-même d'ailleurs en général réalisé. Et pendant très longtemps, on s'est interrogé sur le statut artistique de ces photographies. Était-ce des performances ou n'était-ce pas plutôt des expressions un peu marginales par rapport à son travail d'artiste, de dessinateur qu'on lit à la question de l'art brut. Et en fait, on se rend compte dans l'exposition que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup dessiné de vêtements et que cet aspect obsessionnel est bien le fait d'un projet artistique en tant que tel et pas du tout comme une forme d'élucubration éphémère. Et ça, c'est aussi des choses plus surprenantes parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attend à voir. Je pense que l'exposition, comme elle interroge à la fois des questions très graves et très profondes dans l'histoire de l'art, tout comme elle pose aussi des questions d'ordre relative à la culture populaire, je pense qu'elle ménage justement ces jeux de regard entre ce qu'on appelle en bon français le high and low, entre la culture sophistiquée et raffinée, et quelquefois des œuvres qui peuvent paraître plus triviales, ou en tout cas plus étonnantes. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui fait la nature et la particularité de l'exposition.
Le Louvre a un nouveau département, enfin un département récent consacré à l'accueil d'œuvres qui sont dans des territoires problématiques en termes de sécurité. Là, vous accueillez aussi des artistes qui viennent de pays en difficulté et qui donc créent aussi pour notamment cette exposition.
La question de l'art textile est par ailleurs un art très universel qui est partagé par quasiment toutes les civilisations. Donc c'est aussi un point de rencontre et de convergence très important dans ce contexte-là. Et c'est vrai que le souhait qu'on avait avec Annabelle Ténez, c'était aussi de montrer une autre réalité artistique et la présence de Rana, qui est une artiste d'origine afghane, qui fait partie de ce fameux dernier vol affrété par l'État français pour sauvegarder des talibans un certain nombre de nos amis afghans lors de la prise de Kaboul. Eh bien, elle s'exprime aussi dans ce domaine du vêtement. Elle fait de véritables œuvres d'art, mais elle, en se nourrissant justement de ce vocabulaire, de cette expression liée à celle du vêtement. Et ça nous paraissait très important de montrer qu'il y a toute une nouvelle génération, puisque ce sont des jeunes artistes, Raphaël Barontini, Jeanne Visserial, par exemple, ou Va Dudu, qui continuent aussi cette histoire de l'appropriation du vêtement comme une forme artistique en tant que telle. Et c'est, je pense que c'est nécessaire de le montrer parce que, en effet, la réalité du monde n'est pas angélique. Ça, on en a tous, je crois, aujourd'hui conscience. Et qu'il est important de montrer ces autres formes des réalités par d'autres artistes qui se retrouvent aussi auprès de nous aujourd'hui du fait de l'état du monde et de leurs propres conditions de travail. Et donc ça paraissait important parce qu'une l'art est rarement détaché des contingences de l'actualité et des réalités du monde.
Quelques mots sur les choix scénographiques de cette exposition ?
Alors, la scénographie a été signée par Mathis Boucher, qui est un muséographe architecte qui travaille au sein de l'équipe du Louvre-Lens, avec beaucoup de raffinement, je dirais beaucoup d'efficacité. Il fallait un peu jouer du langage de l'exposition temporaire. Il fallait jouer aussi un peu du langage de la mode pour créer un lien entre le contenu et le contenant. Il fallait aussi que cette exposition soit conçue comme une sorte de promenade, de déambulation, où l'on passe d'un sujet à l'autre, comme on ferait un cadavre exquis, un mot, on amène un autre sans que forcément on soit particulièrement rattaché à cette évolution du fil chronologique. Et je pense qu'il a fait un très beau travail de mise en perspective où très souvent l'architecture se dématérialise et laisse voir justement ces dialogues entre des œuvres et des objets de périodes différentes, mais qui posent souvent des questions très intemporelles, très permanentes, qui sont celles aussi de l'humanité. Et le vêtement et l'art sont quand même deux catégories qui ramènent aussi à un langage universel qui est celui de l'humanité.
Voilà, donc pour le public qui visitera S'habille en artiste, l'artiste et le vêtement, de nombreux espaces où il fera bon s'installer, réfléchir, méditer.
Oui, moi je pense que c'est une exposition, c'est faite. Il n'y a pas de règle pour visiter une exposition. On n'est pas obligé de tout regarder, on n'est pas obligé de tout aimer. On peut se poser, on peut accélérer, on peut embrasser une salle d'un seul regard, on peut se poser quelque part et lire un texte sur l'exposition. Je pense que c'est ça qui est très important. Donc c'est aussi un lieu très à l'abri des fracas du monde qui nous disent beaucoup de choses de l'humanité, de notre société. Et ça, je pense que c'est toujours utile.